Aussi étonnant que cela puisse paraître, aucune chronique ne parle de la construction de Notre-Dame, ni même de sa fondation, ni de son inauguration. C'est un silence total et malheureusement, nous n'avons plus les comptes liés à l'œuvre, enfin à la construction. En revanche, on sait que c'est l'œuvre de l'évêque Maurice de Sully qui commence son épiscopat en 1160. Et on sait aussi, par les chroniques cette fois, que le pape est venu à Paris en 1163. Mais on ne dit pas ce qu'il est venu y faire. Enfin, en tout cas, on ne dit pas qu'il est venu inaugurer un chantier à Notre-Dame. Donc, on a fait l'hypothèse que le pape avait inauguré le chantier, d'où la date de 1163, mais qui est une pure hypothèse, sans aucune preuve. Et donc, dans le doute, nous préférons prendre une date ronde, 1160, qui correspond au début de l'épiscopat de Maurice de Sully.
Brusquement, c'est la révolution. Une populace ignorante et vile envahit la cathédrale. L'église est pillée. Le trésor qui contient des pièces inestimables, envoyé à la fonte. La flèche qui menace ruine est abattue en 1792. On mutile et on brise toutes les sculptures. Les statues des 28 rois de Juda, tirées en bas par une corde, s'écrasent sur le parvis.
Après la tourmente révolutionnaire, Notre-Dame est délabrée ?
Elle est délabrée, c'est un fait, et c'est pour ça qu'il y a ce concours qui est lancé en 1840 pour la rénovation. Mais je dirais qu'elle n'est pas plus délabrée que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle est délabrée dès le XVIe siècle, Notre-Dame. Parce que c'est un bâtiment qui demande un entretien constant, donc c'est un défi permanent de le maintenir contre vents et pluies. Et donc, en particulier après la guerre de Cent Ans, les revenus du chapitre y ont fondu, le bâtiment n'a pas été entretenu pendant un siècle, et on voit justement dans les archives, c'est bien documenté, les cris d'alarme des chanoines qui disent « mais les arcs-boutants se fissurent, l'eau passe par le toit », bon bref. Après, bien sûr, ils réussissent à restaurer et puis à entretenir le bâtiment jusqu'à nos jours, donc là il faut rendre hommage aux centaines d'anonymes, ces chanoines qui ont veillé au cours des siècles à son entretien. Quant au vandalisme révolutionnaire, ça c'est une expression de l'abbé Grégoire qui est très intéressante parce que c'est celle que tout le monde retient. Et c'est vrai que la Révolution a fait du mal au mobilier, qui a pratiquement entièrement disparu à ce moment-là, et aussi à une partie de la statuaire, bon, la célèbre Galerie des Rois, bien sûr. Mais cela dit, la Révolution n'a pratiquement pas touché au bâtiment. Alors, elle n'a peut-être pas beaucoup entretenu, mais pas plus qu'avant, en quelque sorte. Hein, ça fait partie de ces moments. Et en revanche, personne n'évoque de vandalisme lorsque les chanoines eux-mêmes, au XVIIIe siècle, ont modifié la cathédrale dans ses structures, en faisant sauter le tympan du portail central, par exemple, quand même un geste architectural assez fort, ou en rasant la sacristie, ou en mettant à la benne tous les vitraux de couleur du Moyen-Âge pour les remplacer par des grisailles. Ce qui était vu comme des modernisations, donc mises au goût du jour, mais que nous, rétrospectivement, on pourrait aussi qualifier de vandalisme un peu par provocation, parce que l'intention était bonne, en quelque sorte, mais... De fait, ça a amené des destructions par rapport à ce qu'était le bâtiment initial.
Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée.
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Il y a un nom célèbre associé à celui de Notre-Dame, c'est Victor Hugo. Victor Hugo qui va sensibiliser les opinions.
Alors, oui, par son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, republié, même un peu modifié en 1832, et illustré en 1844, donc c'est dire s'il a eu du succès. La fortune littéraire du roman a contribué aussi à la fortune de Notre-Dame. CF, le bossu de Notre-Dame de Walt Disney, qui est le dernier Avatar, mais avant, il y a eu des comédies musicales, des pièces de théâtre, des films aussi, et diverses performances, qui montre que ce roman, donc cette œuvre littéraire, a eu une dimension qui a dépassé la France, qui appartient vraiment au patrimoine mondial, et qui du coup a accroché le bâtiment dans son sillage, entre autres. Hein, il n'a pas forcément besoin de ça pour être apprécié, mais ça a contribué à le rendre célèbre.
La restauration exemplaire de la Madeleine de Vézelay valut à son auteur une commande bien plus considérable, celle de Notre-Dame de Paris. Ce monument était devenu brusquement célèbre grâce au roman de Victor Hugo, mais la faveur qu'il rencontrait désormais dans le public rendait d'autant plus inacceptable l'état délabrement dans lequel il se trouvait. Il avait eu en effet à subir les transformations abusives des chanoines du XVIIIe siècle qui avaient éventré sa façade. Viollet-le-Duc s'attela à la tâche qu'on lui confiait avec un zèle redoublé.
Dans les années 1840, un concours va être ouvert. C'est pour sauver la cathédrale ?
Oui, c'est pour sauver la cathédrale, parce qu'elle est en mauvais état, bon, comme d'habitude, si j'ose dire. Enfin, peut-être un peu plus que d'habitude. Mais elle n'est pas la seule, en fait. Toutes les églises de France, toutes les anciennes enceintes médiévales de France, enfin, beaucoup de bâtiments d'Ancien Régime sont dans un état pitoyable. D'abord parce que le XVIIIe siècle s'en est complètement désintéressé, et ensuite la Révolution encore plus. Et donc, on fonde en 1830 l'Inspection Générale des Monuments Historiques, qui se veut une institution qui va sauver ce qui reste de ce patrimoine. C'est vraiment le début de la pensée patrimoniale. Et Notre-Dame s'inscrit dans ce mouvement. C'est pas pour elle. Elle n'est pas la première ni la dernière. Enfin, d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Viollet-le-Duc, avant Notre-Dame, avait rénové la basilique de Vézelay, qui était, elle aussi, complètement délabrée. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là que s'inscrit le concours que Viollet-le-Duc gagne en 1840.
Il n'est pas tout seul.
Oui, alors en réalité, c'est pas lui qui le gagne, c'est Lassus, c'est l'autre architecte, qui est le patron de l'agence dans laquelle Viollet-le-Duc travaille. Donc, Lassus est plus âgé, il a 37 ans, et Viollet-le-Duc n'a que 30 ans, si j'ose dire. Et donc il y a une petite dissymétrie entre eux, c'est Lassus qui mène, et puis Lassus était aussi le restaurateur de la Sainte-Chapelle. Hein. Donc Viollet-le-Duc a restauré Vézelay, ce qui est pas mal, mais la Sainte-Chapelle, c'est quand même le bijou. Et donc c'est vraiment un binôme qui présente ses propositions et qui emporte le concours haut la main.
Eugène Viollet-le-Duc va se retrouver seul par la suite.
Oui, parce que Lassus meurt en 1857. Alors quand même, Lassus a fait la première partie du chantier, mais on ne pourra pas assumer la deuxième partie du chantier. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on a oublié Lassus, on a retenu seulement Viollet-le-Duc. Mais il faut dire aussi que Viollet-le-Duc a imprimé sa marque sur le chantier, tout en partageant avec Lassus un certain nombre de positions de principe, de positions théoriques sur la rénovation. Il a aussi mis sa patte, personnelle, avec cette vision de la rénovation comme art total, c'est-à-dire que pour lui, c'est pas seulement restaurer des murs, une toiture, c'est aussi les vitraux, bien sûr, mais aussi le mobilier. On oublie que Viollet-le-Duc, il a recréé tout le détail. C'est aussi une rénovation qui va dans tous les détails. Et puis aussi, il a ajouté une marque personnelle, je dirais presque facétieuse. Ça, c'est le petit clin d'œil de l'architecte. Il se met en autoportrait, par exemple, sous les traits. Enfin, c'est les traits de Viollet-le-Duc que l'on trouve sur le Saint Thomas, qui est une des statues de la flèche de la cathédrale. Pourquoi Saint Thomas ? Parce que c'est le patron des architectes. Donc du coup, il a demandé au sculpteur de lui faire son portrait. Il a ajouté des chimères dans la galerie supérieure de la cathédrale, qui avait des gargouilles, c'est-à-dire des conduits d'évacuation des eaux, mais il n'y avait pas de chimères. C'est-à-dire, les chimères, c'est ces créatures, ces monstres, disons, qui sont hybrides, mi-oiseaux, mi-lion, mi-animal, et qui sont accoudées à la balustrade. Donc elles n'ont aucune fonction pratique. Et on ne peut pas vraiment les distinguer d'en bas, donc on ne peut pas dire qu'elles aient une fonction esthétique. Mais pour Viollet-le-Duc, c'est un peu un hommage au bestiaire médiéval, à ce qu'on trouve dans les marges des livres, dans les marges des manuscrits. Il y a beaucoup d'images un peu fantastiques, ça tout à fait dans la tradition médiévale. Et donc, il ajoute ça à cette cathédrale qu'il n'en avait pas au départ. Ça l'amuse parce que c'est un peu la touche personnelle. Et puis, c'est pour lui l'essence du Moyen-Âge. C'est une espèce de fantaisie qu'on met aux marges, tout en étant très sérieux dans le corps principal du document ou du bâtiment.
Sa flèche qui s'embrase, puis s'effondre. Le 15 avril 2019, les images de Notre-Dame de Paris en flammes font le tour du monde.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons.
Après plusieurs heures, les 400 pompiers mobilisés vont parvenir à maîtriser l'incendie. Ils ont notamment réussi à sauver la tour nord, dont la chute aurait très certainement provoqué l'effondrement de la tour sud ainsi que la destruction de la grande rosace. Quant aux trésors de Notre-Dame, comme les reliques, la sainte couronne ou encore un morceau de la croix, eh bien tout cela a pu être sauvé. Mais les dégâts sont là, la tristesse aussi. Et à ce propos, je vous propose d'entendre Boris Bov. Il est professeur en histoire médiévale à l'université de Rouen, Normandie. Il est aussi l'un des auteurs du livre Notre-Dame, une cathédrale dans la ville, aux éditions Belin.
Oui, et on pourrait dire, on devrait s'étonner de la disproportion entre l'émotion et la réalité. C'est-à-dire une cathédrale qui brûle, on pourrait dire que ça n'est jamais que la centième ou la millième cathédrale qui brûle depuis qu'on construit des cathédrales, parce qu'elle brûle souvent, surtout avant qu'on fasse des voûtes en pierre, c'était presque le lot normal des cathédrales. Et le plus incroyable est que la cathédrale de Paris n'est jamais brûlée, en fait. Donc c'était ça l'étonnant. Et bon, premier point, donc, on va dire que c'est quelque chose d'ordinaire. Et deuxième, à l'échelle de l'histoire, bien je m'entends bien sûr, c'est pas tous les jours. Et puis deuxième point, tout le monde avait été évacué, il n'y avait aucune vie en danger, donc l'essentiel en quelque sorte était préservé. Après, il s'agissait que de pierre, de bois, de plomb, et tout ça peut se reconstruire. Donc, on devrait se demander pourquoi on était tous aussi émus. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi celui qui y croyait et celui qui n'y croyait pas était aussi ému l'un que l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait une émotion qui dépassait largement le cercle des catholiques pratiquants ou non pratiquants pour s'étendre aux laïcards les plus laïcards ou aux athées, aux agnostiques, enfin à tout le monde, voire même au monde entier. Donc au départ, la fonction principale, c'est la fonction religieuse, c'est sûr. Il y a eu aussi une fonction identitaire assez précoce et aussi une fonction politique assez précoce. Et la fonction identitaire et la fonction politique ont pris de plus en plus d'importance au fil du temps, en particulier pour la fonction politique à partir du XVIIe siècle, où la cathédrale devient la cathédrale des rois. Lorsque le roi gagne une guerre, on rafle tous les drapeaux sur le champ de bataille, on va les exposer à la cathédrale qui devient une espèce de temple de la guerre. Lorsque le roi fait la paix, Te Deum à Notre-Dame. Lorsque le roi a un fils, Te Deum à Notre-Dame. Lorsque le roi marie sa fille, Te Deum à Notre-Dame. Pour faire quelque chose d'importance pour le royaume, il y a une cérémonie à Notre-Dame. Et donc, ça contribue en fait à décoller Notre-Dame de Paris et de la transporter dans l'univers royal, c'est-à-dire national, puisque la nation, elle se construit durant l'Ancien Régime, dans l'amour du roi. Et puis ensuite, il y a la fonction patrimoniale qui est très ancienne, mais qui prend de plus en plus d'importance au fil du temps. Et puis bien sûr, au XXe siècle, avec d'une part la déchristianisation et d'autre part le tourisme de masse qui étend la sphère, le magistère de Notre-Dame, qui n'est plus seulement le diocèse de Paris, mais ça devient le monde, hein, avec 13 millions de touristes tous les ans. On peut dire que les zélateurs de Notre-Dame, bien que non catholiques, sont extrêmement nombreux. Et donc c'est ces trois fonctions cumulées et accumulées au cours du temps, les millions de gens concernés, et aussi le dernier point, le fait que c'est un bâtiment consensuel, c'est-à-dire que personne n'est contre Notre-Dame. Je n'ai pas rencontré de cas de gens qui souhaiteraient la destruction de Notre-Dame, quelles que soient ses opinions politiques, esthétiques, morale, culturelle. Il y a un consensus pour dire que Notre-Dame doit être protégée parce que c'est un résumé de Paris, de l'histoire de France, de la culture française, une construction de l'art et aussi de l'esprit. Qu'est-ce que peut représenter Notre-Dame pour le peuple, étant entendu que Notre-Dame n'est pas une paroisse et que donc le peuple n'a rien à y faire, en tout cas n'a pas à y faire ses dévotions quotidiennes, puisque c'est le cadre de l'église paroissiale, et il y a plein d'églises paroissiales dans Paris dans lesquelles les citadins vont. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire à Notre-Dame? Alors ils vont faire d'autres formes de dévotion, mais surtout, ils vont aussi y aller pour l'admirer. Il y a quelques témoignages qui montrent, alors en particulier le premier, le plus ancien, date du XIIIe siècle, et c'est le dit des 24 vilains, où c'est l'auteur est anonyme, on devine que c'est un clerc citadin qui se moque des paysans. Et dans un de ces vilains, se rend ridicule, en fait, en venant à Notre-Dame, en disant, on imagine, à quelqu'un à côté de lui ou son fils, donc planté devant la façade, et montrant du doigt, il dit « Ah, regarde, ici c'est Pépin, là c'est Charlemagne », en désignant la galerie des rois. Et le comte dit « Et pendant ce temps-là, un voleur lui coupe sa bourse ». Donc il est doublement idiot parce qu'il n'a pas compris que les rois, c'était pas les rois de France, mais les rois de l'Ancien Testament. Donc déjà, manque de culture. Et puis, deuxièmement, bah, on voit bien que c'est un provincial, il fait pas attention à sa bourse, et à la première distraction, il se fait voler. Donc, mais en même temps, ça veut dire que ça paraît normal qu'un paysan vienne à Paris et s'extasie sur la façade. Et donc ça, je trouvais ça intéressant. Et ça corrobore d'autres témoignages où on voit des étrangers, par exemple, des ambassadeurs, qui, dans leur journal de l'ambassade, disent que, bah, après avoir vu le roi et avoir délivré leur message, bah, ils s'offrent quelques moments de détente. Ils vont visiter Paris. Et parmi les visites, il y a la visite de Notre-Dame. Et notamment, grimper dans les tours et voir Paris du haut des tours. Donc c'est cette pratique culturelle qui est vraiment un peu le point d'orgue de la visite du touriste de nos jours, et ben ça l'est déjà au Moyen-Âge. Et j'ai envie de dire, peut-être que c'était prévu par les architectes du XIIe siècle, parce que les beffrois sont conçus comme des belvédères, c'est-à-dire qu'il y a une balustrade en haut, et il y a donc un point de vue, c'est pas un clocher aveugle. Il y a même plusieurs galeries à différents niveaux, donc on pourrait faire l'hypothèse que ça a été envisagé, et de même que l'accès aux tours se fait par l'extérieur, c'est-à-dire pas besoin de rentrer dans l'église. On rentre sur le côté latéral. Donc, ça me fait dire que ces ambassadeurs, lorsqu'ils font ce récit, c'est un récit tout à fait commun. Et puis l'autre indice qui va dans ce sens, c'est que les éloges de ville, les premiers éloges de Paris du XIVe et du XVe siècle, décrivent très peu de monuments, mais décrivent toujours Notre-Dame. La dimension, le nombre de colonnes, ce qu'on trouve à l'intérieur, etc. Qu'est-ce qu'ils décrivent? Eh bien, Notre-Dame, le palais du roi sur la cité, et le marché des Halles, c'est-à-dire les trois lieux publics de la ville. Donc ça veut dire que Notre-Dame est un lieu public dans lequel, bien sûr, on peut faire des dévotions, mais dans lequel aussi, peut-être on se met à l'abri de la pluie, peut-être qu'on se donne rendez-vous, peut-être qu'on vient, sûrement, ça c'est sûr, on vient mendier, ça c'est attesté pour les mendiants. Et donc s'il y a des mendiants, c'est qu'il y a de la foule, mais la foule n'est pas forcément là pour des raisons religieuses. Bien sûr, ça, c'est probablement la principale motivation, mais ça peut être aussi flâner, observer, admirer le bâtiment comme une œuvre. Et il y avait un dernier élément qui allait dans ce sens-là, c'est que dans les testaments des Parisiens du Moyen-Âge, jamais ils ne demandent le moindre prière au chanoine ou à l'évêque pour leur salut. Donc ils n'attendent rien d'eux, donc ils se tournent vers d'autres clergés et d'autres formes de soutien spirituel. Mais en revanche, presque tous font un don à l'œuvre de Notre-Dame, c'est-à-dire la fabrique, c'est l'institution qui est chargée de l'entretien. Et donc, il n'est pas du tout une institution religieuse. Bien sûr, c'est les chanoines qui tiennent les cordons de la bourse et qui organisent les travaux, mais c'est vraiment une institution liée au chantier, enfin, et à l'entretien du bâtiment, donc quelque chose de très, très matériel. Tout ça, mis bout à bout, laisse penser qu'il y a un vrai, vraiment l'orgueil des Parisiens. Ils sont fiers de leur cathédrale et que, donc, à ce titre, ils souhaiteraient qu'elle soit bien entretenue.
Peut-être enterrer cependant Paris qu'elle a vu naître. Mais, dans quelques mille ans, le temps fera broncher comme un loup fait un bœuf cette carcasse lourde, tordra ses nerfs de fer et puis, d'une dent sourde, rongera tristement ses vieux os de rocher. Bien des hommes de tous les pays de la terre viendront pour contempler cette ruine austère, rêveurs et relisant le livre de Victor, alors ils croiront voir la vieille basilique, tout ainsi qu'elle était, puissante et magnifique, se lever devant eux comme l'ombre d'un mort. Gérard de Nerval, 1834.
Message tout simplement sur mon portable, et sur le moment j'y ai pas cru, enfin, en feu, comment est-ce qu'elle peut être en feu? Donc là on voit en fait la partie de la tour qui s'effondre et puis le retour de flammes derrière. C'est, je trouve, la partie la plus impressionnante, c'est lorsque la flèche est tombée. On n'ose même pas imaginer en fait ce qui s'y passe. C'est triste.
Je reviens sur l'incendie de 2019. Il a ravagé la charpente de l'édifice. La flèche de Notre-Dame de Paris s'est effondrée dans un nuage de fumée. Ça, c'est une image assez forte, hein. Mais il y a eu d'autres dégâts importants.
Alors, Il y a, alors en s'effondrant justement, elle a détruit ce qui était à l'aplomb, c'est-à-dire l'hôtel et les strates sur lesquelles était l'hôtel. Il y a la température donc, de l'incendie qui a changé les propriétés mécaniques de la pierre. Donc c'est sûr qu'il va falloir changer un certain nombre de pierres qui sont devenues friables. Il y a eu bien sûr le plomb qui a fondu et qui a en partie pu intoxiquer l'air, enfin en tout cas créer une pollution accidentelle. Et puis la charpente a disparu. Mais finalement, je trouve qu'on s'en est bien tiré. On s'en est bien tiré parce que ça aurait pu, ça aurait dû même être bien pire. Se propage au beffroi qui est en bois et qui porte les cloches, que les cloches qui pèsent des tonnes tombent, et en tombant, qu'elles fassent tomber les tours, et les tours feraient tomber la nef ensuite, un peu comme un château de cartes. Oui, on a quand même évité ça. Alors, grâce au courage des pompiers qui ont été peut-être fait plus que ce qu'on leur demandait et qui ont sauvé les beffrois et qui ont empêché le jeu de dominos. Donc, on a disparu, c'est la forêt, c'est-à-dire la charpente. Mais par chance, cette charpente avait été l'objet d'un relevé archéologique quelques années auparavant, qui fait que, bien sûr, les bois ont disparu, mais la structure a été parfaitement archivée numériquement. Donc là, il y a un profit. Et d'une manière générale, je dirais que les destructions, lorsqu'elles ne ruinent pas complètement le bâtiment, elles ont aussi un potentiel de découverte. En nettoyant la zone d'effondrement de la flèche, là, dans le cœur, eh bien, sous l'autel, on a retrouvé donc un corps, un cercueil, qu'en soi, on n'aurait jamais trouvé s'il n'avait pas eu cet accident, et puis aussi des fragments du jubé du XIIIe siècle, qui a été démoli au moment du vœu de Louis XIII, c'est-à-dire lorsque la décoration du chœur a été complètement remaniée à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Le jubé qui était magnifique a été démoli et une partie remployée en fait comme gravat, hein,